C'est sympa aussi de vous voir en plus petit comité, un côté presque intimiste. Cette semaine, j'ai posé une question un peu taquine pour blaguer. Et puis en fait, en y réfléchissant après, je me suis dit qu'elle manquait pas de sens, cette question. Il y a un couple de notre église qui a eu la gentillesse cette semaine de garder mon fils Emmanuel le temps d'un rendez-vous que j'avais à l'église, parce qu'il se trouve que voilà, Anna et Gabriel ne sont pas là, ils sont en camp. Théo, il était, je ne sais plus où, qu'est-ce qu'il faisait Théo ? Il était avec toi, oui, c'est vrai, il était avec Greg, ouais. Je dispatche mes enfants partout. Moi, c'est... Et donc, j'étais seul avec Emmanuel, et Emmanuel, bah, je ne peux pas le laisser tout seul à la maison, et j'avais un rendez-vous, donc ils l'ont gardé. Et puis quand je suis revenu le chercher, je me suis adressé non pas à eux, mais à lui, donc à Emmanuel. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai demandé ? Non, peut-être pas quand même. Non. Je lui ai demandé, alors, est-ce qu'ils ont été sages ? On s'inquiète souvent de savoir si les enfants ont été sages. La Bible, elle nous dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Et j'ai l'impression qu'elle semble plutôt se préoccuper de savoir si les adultes sont sages. Est-ce qu'on est sage ? Est-ce qu'on a été sage, nous ? Et ce qui est en jeu dans la Bible à travers cette question de la sagesse, c'est en fait toute la conduite de notre vie. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que j'ai entendu dans les prières ce matin beaucoup d'éléments que vous allez retrouver dans cette prédication, ce qui montre qu'il y a quand même une certaine sagesse, je crois, parmi vous, parmi nous. Ce qui est en jeu, c'est le fait de savoir vivre bien. Vivre bien, c'est-à-dire vivre en accord avec ce pourquoi nous sommes faits. Vivre en accord avec, on pourrait dire, notre nature profonde, notre appel. Vivre en accord avec les lois de ce monde, ces lois physiques, ces lois morales, ces lois spirituelles. Il y a des choses assez évidentes, hein, les lois physiques. Si on se jette d'un avion sans parachute, en général, on a une vague idée de ce qui va se passer. Ça ne se passe pas très bien. Donc on respecte ces lois-là, eh bien il y a d'autres lois, il y a des lois morales, des lois spirituelles. Si on les suit, qu'on les respecte, ça se passe mieux que si on ne les suit pas. Manquer de sagesse, c'est littéralement passer à côté non seulement de sa vie, mais plus généralement de la vie. C'est d'ailleurs la définition, peut-être la plus exacte, du péché, hein, rater la cible. Il y a ce pourquoi Dieu nous a créés. Et puis, il y a le péché, fruit de notre manque de sagesse, qui nous fait passer à côté. Et on ne veut pas passer à côté. En vrai, personne ne veut passer à côté, pas même les non-croyants qui cherchent eux aussi, d'une façon ou d'une autre, un sens à leur existence. Et pour éviter de passer à côté, la Bible nous donne une clé qui revient comme un refrain et qu'on va lire ensemble. C'est une prédication sur un seul verset ce matin, mais vous verrez qu'il est dense, ce verset. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, et avant, je vais prier. Seigneur, nous voulons reconnaître devant toi d'abord que bien souvent nous manquons de sagesse. Nous voulons reconnaître devant toi que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sagesse qui s'exprime notamment dans ta parole, Seigneur. Nous avons besoin aussi de ton Saint-Esprit pour comprendre cette parole, pour la comprendre autrement qu'avec notre tête, mais qu'elle vienne aussi bousculer notre cœur pour nous mettre en mouvement à la suite de ton Fils. Seigneur, merci parce que par elle, tu nous façonnes. Tu nous modèles, Seigneur, comme le potier. Et oui, de ces vases d'argile que nous sommes, Seigneur, toi, tu fais une œuvre. Nous voulons te rendre grâce pour ça, pour les moments où c'est agréable et pour les moments aussi où c'est moins agréable. Nous te prions, Seigneur, de poursuivre cette œuvre et notamment par l'écoute de ta parole, que nous puissions vraiment non seulement l'écouter, mais surtout l'entendre. Qu'elle vienne s'ancrer au fond de notre cœur et faire son œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, et au verset 10. Nous lisons cette simple phrase. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et vous avez peut-être d'ailleurs d'autres traductions. Dans une autre traduction, moi j'ai le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel. Il y a quelques textes comme ça dans la Bible qui sont d'une densité peu commune, je trouve. Parce que c'est probablement toute la vie chrétienne, en fait, qui tourne autour de ce seul verset, et en tout cas, c'est toute la vie chrétienne qui le médite jour après jour. Chaque mot de ce verset pèse lourd. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ma proposition pour ce matin, c'est de prendre ce verset à rebrousse-poil et de commencer par le mot peut-être le plus dense, qui est l'Éternel ou le Seigneur, selon les traductions. Ma mère, à la fin de sa vie, a renoué avec une forme de foi. Et je me souviens qu'un jour, elle m'a dit « Quand on cherche Dieu, on l'appelle Dieu. Mais quand on l'a trouvé, on ne sait plus comment le nommer. » C'est une réflexion intéressante et je vous propose de la pousser jusqu'au bout dans une perspective chrétienne. Ce que cette réflexion montre, c'est que ma mère s'était ouverte à la transcendance de Dieu. Et c'est déjà pas mal, mais pour le dire honnêtement, c'est le cas de plein de gens. Les musulmans aussi sont ouverts à la transcendance du divin. Le New Age a une proposition de transcendance dans sa spiritualité. Il y a quelque chose qui est assez juste là-dedans, et qui est que Dieu est tellement grand, il dépasse tellement notre entendement, que le nommer, c'est presque toujours l'enfermer dans quelque chose de trop petit pour lui. Alors je dis presque toujours, parce qu'il y a une nuance, et cette nuance, c'est pas rien, c'est que Dieu, dans la Bible, a un nom. Il a un nom. C'est un nom curieux, c'est un nom qui est composé de 4 consonnes. Alors en soi, ça n'a rien de complètement bizarre parce que dans l'hébreu biblique, il n'y avait effectivement pas de voyelles. Donc, il n'y a pas que le nom de Dieu qui n'avait que des consonnes. En fait, il n'y a que des consonnes dans le texte biblique à l'origine. Et la conséquence de cette absence de voyelles, c'est que pour être capable de lire ce texte, il fallait être accompagné de la tradition orale. Vous saviez comment lire le texte parce qu'on vous avait montré comment lire le texte. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, par peur de rompre le troisième commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », ont décidé de ne plus prononcer le nom de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand ils faisaient la lecture de la Torah, et c'est encore le cas aujourd'hui, et qu'ils tombent sur ces 4 consonnes qu'on appelle le tétragramme, au lieu de dire le nom de Dieu, ils disent « Adonai », c'est-à-dire « Seigneur ». La conséquence, c'est qu'avec le temps, la prononciation exacte de ces 4 consonnes s'est perdue. On ne sait plus exactement, très exactement, avec certitude, quel était le nom de Dieu. Il y en a qui ont proposé Jéhovah. Vous le savez, vous l'avez entendu sans doute. Mais ça, on sait que c'est faux. Comment est-ce qu'ils en sont venus à penser que ça pouvait être Jéhovah ? Eh bien, c'est à cause d'un grand malentendu. En fait, quand l'hébreu biblique a commencé à se perdre, il y a des érudits juifs qu'on appelle les massorètes qui ont inventé un système de vocalisation, de voyelles, pour qu'on ne perde pas la prononciation de ce texte, pour qu'on puisse continuer de le lire. Donc entre les consonnes, ils ont ajouté des voyelles pour qu'on sache comment lire ce texte. Sauf que pour le nom de Dieu, la prononciation était déjà perdue. Et de toute façon, comme ils ne veulent pas prononcer le nom, donc ce qu'ils ont fait, c'est que pour se rappeler que quand on tombe sur le tétragramme, il faut lire Adonai, ils ont inséré les voyelles d'Adonai entre les consonnes du tétragramme. Donc vous avez les consonnes d'un mot avec les voyelles d'un autre mot, si vous voulez. Et quand vous faites ça et que vous lisez le mot qui en ressort, qui est donc un mot complètement artificiel, qui n'existe pas en réalité, ce que vous lisez, c'est effectivement Jéhovah. Donc Jéhovah, ça n'est pas le nom de Dieu, ce sont simplement les voyelles d'Adonai qui ont été associées aux consonnes du tétragramme. Il y en a d'autres qui ont proposé Yahweh. Ça vous dit quelque chose, Yahweh ? Un peu ? Ou Yahvé, ça dépend comment vous prononcez la lettre Vav, ça dépend de votre accent. Et c'est une hypothèse assez sérieuse, Elle est pas mal, cette hypothèse, parce qu'elle puise sa source en Exode 3,14, quand Moïse dit à Dieu « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis même. » Eh bien, le verbe être utilisé ici par Dieu pour se présenter à Moïse, c'est « Haya ». Et Yahvé, en fait, c'est une dérivation de ce verbe. C'est pour ça que c'est une hypothèse quand même assez sérieuse. Nos traductions, vous l'avez vu, plutôt que d'utiliser Yahvé ou que de laisser le tétragramme tel quel, choisissent généralement de traduire ces quatre consonnes de deux manières différentes, ou bien éternel, ou bien Seigneur. Alors l'éternel, c'est intéressant parce que ça conserve relativement intact, je dirais, cette idée de transcendance de Dieu. « Je suis celui qui est. Dieu est. Il est de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas créé et il est donc le créateur, lui, de toutes choses. Par sa parole, il a tout créé. Toutes choses ont été faites par elle, nous dit Jean, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'éternel, c'est le Dieu créateur. » Et puis on a « Seigneur » qui est l'autre choix. Et l'intérêt de cette traduction-là, c'est qu'elle respecte le terme Adonai, qui a été choisi par les Juifs, je dirais, en remplacement du nom de Dieu. Et elle est aussi conforme à la tradition chrétienne qui leur a emboîté le pas et qui, effectivement, parlait du Seigneur. En vrai, la question de savoir quel était exactement le nom de Dieu, comment est-ce que ça se prononçait exactement, ce n'est pas fondamental. Mais ce qui me semble fondamental, en revanche, c'est de comprendre que le Dieu de la Bible a bien un nom. Il a un nom. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que ça signifie que quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un concept éthéré, d'une espèce de fourre-tout dans lequel rentrent toutes les spiritualités et tous ceux qui se réclament de Dieu. Notre verset ne dit pas que le commencement de la sagesse, c'est de croire dans le divin. Notre verset ne déclare pas sages tous ceux qui vivent avec une certaine spiritualité et avec une conscience plus ou moins aiguë de la présence d'un Dieu quelque part dans l'univers. Notre verset nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. C'est-à-dire, c'est la crainte du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand un musulman... une personne impliquée dans le New Age ou dans une religion orientale vous parle de Dieu, elle ne vous parle pas de ce Dieu-là. C'est le même mot, c'est le même vocabulaire, mais ça n'est pas le même esprit qui est derrière ce mot. Alors, je suis bien désolé d'avoir à contredire ma mère, surtout 30 ans après sa mort, c'est pas très joli, mais en fait, si, quand on a trouvé Dieu, on sait comment le nommer, parce qu'on sait qui il est, parce qu'il se laisse connaître. Le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ n'est pas un grand tout impersonnel, il n'est pas une conscience cosmique, il n'est pas non plus le Dieu de l'islam qui ne reconnaît pas Jésus comme son fils ou le Dieu de je ne sais quelle autre religion. Il est celui dont Jésus a dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Il est le Seigneur, il est le Créateur du ciel et de la terre, il est l'Éternel, il est notre Père, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est bien à ce Dieu-là qu'on s'adresse. Et c'est bien ce Dieu-là qu'on doit craindre si nous souhaitons commencer à être sages. Ce qui nous amène au deuxième terme, qui est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel ? On peut commencer par observer dans les textes ce qui amène les gens à craindre Dieu. Quand vous faites une recherche un peu rapide comme ça, vous pouvez regarder les moments où les gens dans la Bible ont éprouvé cette crainte de Dieu. Vous avez par exemple Josué 4, versets 23 et 24, où il nous est dit que si Dieu a ouvert les eaux du Jourdain devant le peuple comme il l'avait fait devant la mer Rouge, avec la mer Rouge, pardon, c'est, je cite, « afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte et afin que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. » En 1 Samuel 12, versets 16 à 18, on voit le prophète Samuel dire qu'il va invoquer le Seigneur pour qu'il fasse retentir des coups de tonnerre et tomber la pluie, pour que le peuple sache qu'il a mal agi en demandant un roi. Et donc c'est ce que fait Samuel, et la suite du texte nous dit que le jour même, le Seigneur fit retentir des coups de tonnerre et tomber la pluie, Tout le peuple eut une grande crainte du Seigneur et de Samuel. » Dans le Nouveau Testament, on voit la foule saisie par la crainte quand Jésus pardonne les péchés d'un paralytique et le guérit de telle sorte qu'il se remet à marcher. On la voit aussi saisie par la crainte quand il ressuscite le fils d'une veuve. Et c'est intéressant de constater que dans ces deux textes, qu'on trouve en Matthieu 9, 6 à 8 et en Luc 7, 12 à 16, ce qui fait suite à cette crainte, c'est la louange. Les foules nous disent ces textes « glorifiez Dieu ». Et finalement, il y a ce texte de Matthieu 28, 5 à 8, et là on va le lire. C'est le texte où les femmes arrivent au tombeau après la mort de Jésus. Matthieu 28, versets 5 à 8. Qui nous dit ceci. Donc elles arrivent au tombeau, le tombeau est vide, ou plus exactement, il n'est pas tout à fait vide puisqu'il y a là un ange. Et l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait, et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Vous n'ayez pas peur. Dans ces différents textes, on voit que ce qui suscite la crainte de Dieu, finalement, c'est une intervention extraordinaire de Dieu dans la vie de personne. Mais on arrive là dans ce, je dirais dans le Nouveau Testament, à un moment où cette crainte de Dieu suscite la louange, suscite le fait de glorifier Dieu. On arrive à ce moment où, même si ces femmes ressentent une forme de crainte, l'ange leur dit « Vous, n'ayez pas peur ». Elles repartent avec crainte et avec une grande joie. Alors, est-ce que la crainte de Dieu consiste à avoir peur de Dieu ? On répond souvent que non à cette question, mais peut-être que cette réponse est un tout petit peu rapide. Parce que, on l'a vu, ce qui suscite la crainte dans les textes qu'on a lus, c'est le fait que ce Dieu, finalement, qui peut nous paraître parfois un peu lointain, un peu absent, peut-être même un peu inexistant, qu'on oublie un peu, soudain se révèle à nous. Il se révèle à nous, brutalement, il se passe quelque chose. Et on prend soudain conscience que ce Dieu qu'on avait laissé de côté, oublié, ou même rejeté, intervient de manière claire, de manière puissante, dans notre vie. Et on se retrouve d'un coup face à l'existence manifeste de Dieu. Un Dieu donc qui intervient, qui entre en interaction personnelle avec nous. Alors, si nous sommes toujours sous le poids de notre péché, il y a de quoi avoir peur. Parce que ce qui pèse sur nous, c'est la condamnation. La Bible nous dit qu'il y aura une juste rétribution pour nos péchés et que cette juste rétribution, le salaire du péché, pour reprendre l'expression biblique, c'est la mort. C'est un état éternel de séparation d'avec Dieu, ce qui est en fait un état de souffrance éternelle. La bonne nouvelle, c'est que cette condamnation, Jésus-Christ l'a prise sur lui à la croix, de telle sorte que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le don gratuit de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est un don d'amour. Et alors cette crainte de Dieu, au lieu de nous plonger dans la peur, nous plonge dans la repentance. Et c'est pour ça que l'ange peut dire aux femmes arrivées au tombeau, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus. » Elles sont au bon endroit, ces femmes. Elles cherchent Jésus. Elles éprouvent une forme de crainte, elles s'éloignèrent du tombeau avec crainte, nous dit le texte, mais cette crainte n'est pas de la peur à proprement parler, puisqu'elle s'accompagne, nous dit toujours ce texte, d'une grande joie. Ces femmes font partie de ceux à qui l'apôtre Paul dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Elles font partie de ceux à qui l'apôtre Jean dit « L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Or, il n'y a plus de condamnation pour qui est en Jésus-Christ ». C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains. La crainte qu'elles éprouvent, elle est d'une autre nature. Elle est ce respect révérencieux que nous inspire un Dieu si grand, éternel, tout-puissant, omniscient, un Dieu qui surpasse toute intelligence, qui a créé le ciel et la terre et qui, à un moment donné, entre en relation avec nous. Il entre en relation avec son peuple et il n'y a plus de peur parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais il y a ce saisissement, ce « Waouh !» parce que c'est extraordinaire. En fait, c'est bien plus extraordinaire que la mer Rouge qui s'ouvre en deux. Parce que dans l'Ancien Testament, à quelques exceptions près, Dieu se manifestait en creux. On le devinait dans la nuée, on le devinait dans la colonne de feu, on le voyait se manifester par des prodiges. Mais la rencontre personnelle avec Dieu, Dieu qui vient à nous, Dieu qui vit en nous, ça n'était réservé qu'à une poignée de personnes, une poignée d'élus. Moïse, quelques prophètes et juges, le grand prêtre une fois par an et encore dans des conditions hyper strictes. Et à chaque fois, ils étaient morts de peur. Ils étaient morts de peur parce que la sainteté de Dieu est telle qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut la supporter face à face. Ces hommes-là craignaient littéralement pour leur vie. Mais avec Jésus, il arrive quelque chose d'incroyable, presque d'impossible, je dirais. Dieu ne se contente plus d'entrer en relation avec nous de loin en loin. Avec Jésus, Dieu se fait l'un des nôtres. Jésus, c'est Dieu incarné qui marche sur la terre de Galilée. C'est Dieu qui marche au milieu des hommes, qui mange avec eux, et les hommes lui parlent face à face. Et ça change tout. Ça change tout. Un jour, un vieil ami agnostique a pris ma Bible dans ses mains, il m'a regardé et il m'a dit « Si ce qui est dit là-dedans est vrai, c'est une véritable bombe !» Eh bien, quand une bombe explose, le terrain change de configuration. Qu'est-ce qu'on voit dans la vie de ceux qui, dans la Bible, ont éprouvé cette crainte de l'Éternel ? Celui qui craint l'Éternel adopte une conduite juste et honnête dans sa vie sociale. C'est le Lévitique, chapitre 19, qui nous le dit. Il se détourne du mal, Proverbe 16, verset 6. Il veille sur ses actes, 2 Chroniques 19, 7. Il se conforme à la volonté de Dieu, c'est le Psaume 19. Il lui offre des sacrifices, c'est Jonas. Il cherche à partager l'Évangile, 2 Corinthiens 5, 11. Il marche par la foi et non par la vue, Hébreux 11, 7. C'est à ça que ressemble, c'est vers ça que tend la vie de ceux qui ont cette crainte de Dieu. Et c'est à ça que ressemble le commencement de la sagesse. On arrive au dernier terme, donc, qui est cette fameuse sagesse. Qu'est-ce que c'est être sage ? Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent me dire ce que c'est qu'être sage ? Puisque vous êtes les spécialistes de la sagesse. Quelqu'un sait ? Ah, il y a un enfant là qui lève le doigt. Oui ? L'écoute. L'écoute ? Ouais. L'écoute, c'est être sage. D'autres idées ?
L'obéissance.
D'autres idées ? On est sage quand on obéit. L'amour ? Vous me faites plaisir, je vais passer à la conclusion quasiment. Je crois que dans le monde, quand on évoque la sagesse, ce qui vient spontanément, ce n'est pas l'obéissance. Ça, c'est très juste, évidemment. C'est très juste. Mais le sage de l'imagerie populaire, c'est le sage oriental. Le monde peut s'écrouler autour de lui, il demeure imperturbable. Son esprit reste calme. C'est comme ça qu'on dit dans le bouddhisme. Pour reprendre une expression qui est passée dans le langage courant, il est zen. Le sage, c'est le zen. Cette sagesse-là, elle existe. On n'est pas obligé de le nier. Il est effectivement possible d'arriver à un détachement tel que plus rien ne nous affecte. Ça s'acquiert par la pratique de la méditation, qui est en fait une forme de contrôle mental, une forme poussée de contrôle mental. Cette sagesse existe, mais c'est une sagesse d'en bas. D'abord parce qu'elle n'est en rien une grâce. Ce n'est pas une grâce. Elle s'appuie sur les efforts constants de ceux qui la pratiquent. Et ensuite, elle n'est pas source de vie. C'est tout l'inverse. Pour atteindre cette sagesse-là, cette sagesse qu'on a en tête, de la sagesse orientale, le bouddhisme et plus largement les religions et les philosophies orientales proposent des techniques de méditation dont le but est de tuer le désir qui est source pour eux de toutes les souffrances. Et donc, l'objet du bouddhisme, en fait, c'est de tuer l'ego, c'est de tuer le je pour ne plus avoir à dire « je souffre ». Seulement, le prix à payer est immense parce qu'en tuant ce « je », celui qui va au bout de sa pratique, tue aussi le « j'aime ». On voit parfois également la réincarnation comme une espèce de truc cool dans le bouddhisme, une espèce de remake de la vie éternelle qu'offre le dieu de la Bible. C'est chouette, on va pouvoir redémarrer à chaque fois. Mais ça aussi, on le sait peu, mais c'est la proposition exactement inverse, en fait. Dans le bouddhisme, la réincarnation, ça n'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est pas une bonne nouvelle, c'est vécu comme une malédiction. Et tout l'objet de la pratique bouddhiste consiste à en rompre le cycle par une disparition de l'être, par un effacement de soi jusqu'à atteindre le vide, jusqu'à atteindre le néant. Autrement dit, pardonnez-moi, mais c'est un suicide. Tu te détaches de tout ce qui fait le sel de la vie. Et face à ce détachement de l'ego, face à ce grand « je ne suis plus », on a le Dieu de la Bible qui dit « moi je suis celui qui est ». Je suis celui qui est. On a le Dieu de la Bible qui nous invite à investir pleinement la vie. Alors la voie rapide pour avoir une idée de ce que c'est que la sagesse dans la Bible, c'est évidemment de se tourner vers les livres qui en parlent tout spécialement, qu'on appelle les livres sapientiaux. C'est le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et quand vous lisez ces livres, eh bien vous comprenez vite que la sagesse biblique n'essaye pas de nous soustraire à la réalité du monde. Elle ne nous dit pas « le monde, c'est un lieu terrible et il faut absolument s'en dépatouiller pour ne jamais y remettre les pieds ». Ce n'est pas ça. Quand on parcourt Job, on voit, par exemple, qu'elle ne tue pas le « je souffre ». On parcourt le Cantique des Cantiques et on voit qu'elle ne tue pas le « j'aime ». Ce qu'elle propose, c'est de vivre pleinement la vie dans toutes ses facettes jusqu'à la pointe aiguë de ce qu'elle a à nous offrir. Alors, ce n'est pas un chemin facile, mais ça nous est dit aussi, hein. Large est la porte qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au salut. Ce n'est pas un chemin facile et la Bible n'élude en rien les questions difficiles. Dans Job, vous avez la souffrance d'un juste qui souffre pour rien du tout. Ce n'est quand même pas simple comme problème, ça. Dans l'Ecclésiaste, vous avez l'histoire d'un homme qui se questionne profondément sur le sens de la vie. Il est pétri d'angoisse existentielle. Dans le Cantique des Cantiques, c'est la passion amoureuse qui nous est décrite, avec d'ailleurs beaucoup moins de pudeur et de retenue que n'en ont généralement les prédicateurs. Dans les psaumes, ce sont des envolées de louanges envers Dieu, mais c'est aussi les appels déchirants d'un peuple qui se sent abandonné de Dieu et qui va jusqu'à lui dire « c'est à cause de toi qu'on nous tue sans cesse. C'est à cause de toi qu'on nous considère comme des moutons d'abattoir. Lève-toi, pourquoi est-ce que tu dors, Seigneur ?» On trouve ça dans la Bible. La sagesse biblique est tout sauf du détachement. En fait, elle mord la vie à pleines dents. Elle la respire à plein poumon. Elle la saisit à bras le corps. Loin de la fuir, elle s'en empare avec ferveur. À travers l'expérience de tous ces hommes et de toutes ces femmes qu'on rencontre dans la Bible en général et dans les livres de la sagesse, je dirais en particulier, c'est Dieu qui nous parle et qui nous enseigne comment traverser la vie, comment traverser ses épreuves et ses joies dans une perspective qui soit juste vis-à-vis de nous-mêmes, des autres, et du Créateur. Dans ces livres-là, les silences de Dieu y sont tout aussi éloquents que ses paroles. On touche dans ces livres la sagesse de Dieu et on touche dans le même mouvement nos propres limites humaines. Alors quand je pense aux enfants, je me dis qu'ils sont effectivement plus doués que nous pour s'emparer de la vie à bras-le-corps. Quand ils aiment, ils ont le cœur qui déborde. Quand ils sont frustrés, ils se roulent par terre. Les enfants, ils pleurent pas, ils explosent en crise de larmes incontrôlables. Les enfants, ils ne rient pas, ils s'esclaffent à en réveiller les voisins. Ils parlent pas, ils crient. Quand ils sont heureux, même leurs cheveux ont l'air contents. Et quand ils sont tristes, même si c'est juste parce qu'ils ont égaré leur doudou, on a l'impression qu'on vient d'assassiner leur chien. Et évidemment, ces émotions, elles sont à réguler et on se réjouit quand même globalement que ce qui se passe avec le temps, hein, c'est qu'effectivement, elles sont régulées. J'ose pas imaginer à quoi ressembleraient les files de supermarché si on se roulait par terre à chaque frustration. N'empêche que la vie est faite pour être vécue. Elle est faite pour être vécue pleinement, dans ses joies, dans ses peines, jusqu'au bout, vécue sous le regard de Dieu, accompagnée par lui, dans les joies comme dans les peines. Elle a un sens, elle a une direction. Et pour bien vivre notre vie, nous avons besoin de Dieu, parce qu'il est lui le créateur de la vie. Il est celui qui en a établi les règles. Il sait comment elle fonctionne, cette vie, et il nous l'indique. Ce n'est pas pour nous contraindre, c'est pour que nous puissions vivre une vie harmonieuse avec lui et avec nos frères humains. C'est pour que nous n'ayons pas l'idée de sauter d'un avion sans parachute. Alors, finalement, la question est pertinente. Est-ce que nous sommes sages ? Est-ce que nous sommes sages ? Je vais prier, puis ensuite on va chanter un chant. Donc je vais inviter notre petite équipe de louanges à me rejoindre à nouveau. Un chant qui n'hésite pas à proclamer le nom de notre Dieu, à dire quel Dieu nous proclamons. Quel est ce Dieu que nous louons ? Il n'est pas n'importe lequel, il est le Dieu de Jésus-Christ, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est le Dieu d'Israël, il est notre Dieu. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. Bien des gens utilisent ton nom. Bien des gens utilisent le même vocabulaire que nous pour parler de quelqu'un d'autre que de toi. Un quelqu'un que parfois ils ne connaissent pas personnellement parce que pour eux c'est un Dieu lointain, une espèce de concept éthéré, fourre-tout. Seigneur, nous c'est vers toi que nous nous tournons, toi qui es le Père de Jésus-Christ, toi qui es notre Père. C'est toi que nous louons, toi le Dieu d'Israël. Seigneur, nous savons que sans toi nous manquons de sagesse. Nous savons que toutes les fois où nous nous détournons de toi d'une manière ou d'une autre, nous manquons de sagesse. Seigneur, toi tu connais tous ces lieux dans nos vies qui ne sont pas sous ta seigneurie parce que nous te les refusons, parce que nous voulons avancer en pensant qu'on sait mieux que toi ce qui est bon pour notre vie. Seigneur, je veux te prier ce matin que tu nous les révèles, que tu nous les montres, pour que nous puissions à nouveau, dans ces lieux-là, éprouver cette crainte qui t'est due, qui est une crainte révérencieuse et qui nous amène à la repentance. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu as établi des lois morales, spirituelles, des lois physiques. Tu nous fais cette grâce de nous les faire connaître par ta parole, par ton Saint-Esprit. Seigneur, rappelle-toi à nous dans tous les lieux où nous bafouons tes lois pour que nous puissions marcher droit devant toi, non pas comme des militaires qui obéissent, peut-être parfois sans forcément comprendre pourquoi ils obéissent et qui peut-être obéissent aussi à des ordres injustes. Nous savons que tes lois à toi ne sont pas injustes. Nous voulons obéir à tes lois comme des enfants qui obéissent à la bonté de leur père aimant, qui sait ce qui est bon pour eux. Nous voulons te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas, parce que tu es un Seigneur, tu es notre Seigneur, et tu es aussi notre Père. Tu poses un regard bienveillant sur nous. Tu poses un regard d'amour sur nous. Seigneur, nous voulons te louer maintenant. Amen. Thank you.